One, two, get down.
Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier!
Salut mon cher Théo!
Aujourd'hui, comme chaque début de mois, nous consacrons cet épisode de Thérapie Pop à notre prescription mensuelle. Alors, pour une fois, on écoutait à peu près les mêmes albums, et donc j'ai pas de conseils particuliers à vous donner pour ma part, à part peut-être la sortie d'Eden Beach Club de Laurent Barden et Tigre d'eau douce, que on avait découvert l'année dernière grâce à Oiseau, un single sur lequel se posait la jolie voix de Bertrand Belin. Eh bien, figurez-vous qu'ils reviennent avec cet Eden Beach Club, un album qui saura agrémenter agréablement vos soirées d'été si vous aimez le saxophone. On est sur du jazz. Et on est sur du bon jazz, donc je suis heureux de vous partager cette petite pépite que je vous recommande très très fortement pour l'été. Je crois, Gauthier, que tu voulais toi aussi commencer par une petite pépite, mais que pour le coup t'es pas allé dénicher bien loin, puisque le week-end dernier t'as partagé un gigot chez ta grand-mère avec l'artiste dont il va être question. Cet artiste, c'est The Last Parade.
Alors avant de t'en parler, je te propose un petit extrait de sa chanson Layers, et on en parle derrière. Layers de
Last Parade. Tu fais les chœurs, non?
Moi, presque. Non, j'aurais pas la capacité vocale. Layers de The Last Parade. Another layer of divine paradise. Closer you in this life, the weight of your shoulders feels like you're flying. Roadblocks vanishing, the heart is appearing. Yourself, others already taken. Wise wild was really not. Layers donc de The Last Parade, mon cher Théo. Alors effectivement, tu as raison, je suis pas allé le chercher bien loin. Alors pas dans le gigot du week-end dernier,
non.
Mais presque, puisque derrière l'artiste The Last Parade, excuse-moi, se cache mon cousin, tout simplement, Bertrand Beaumont. Alors je peux pas donner le nom de l'album, parce que ce qu'on entend, ce sont les premiers extraits de ce qui sera justement l'album à venir. Il a commencé à les distiller petit à petit, ça c'est le deuxième extrait. Le premier, Théo, il faut que j'en parle aussi parce que c'est du Radiohead. Il a commencé avec comme première proposition musicale une reprise de Exit Music for a Film, qui n'est pas la chanson la plus simple de Radiohead à chanter et dont il se sort, il faut le dire, avec plus que les honneurs.
Ah ouais, il s'en tire plutôt très bien, c'est vrai que j'ai écouté.
Layers était, je veux pas dire de bêtises, mais le premier extrait de ses compositions originales. Il en a sorti une autre depuis. Voilà, c'est The Last Parade, l'album sortira... Écoute Bertrand, dis-moi quand, au demeurant. Mais allez-y, foncez, écoutez. Déjà, c'est mon cousin, donc il faut. Et de deux, parce que ce qu'il fait est loin d'être mauvais. Bon courage Bertrand, continue. Moi, je te soutiens en tout cas, avec grand plaisir.
Je suis en train de la réécouter, cette chanson. Il y a un petit côté archive.
Un petit côté archive, un petit côté Foo Fighters aussi un peu.
Ouais.
Avec un rock très sombre. Et allez voir la pochette, parce que je pense qu'il met un visuel. Moi, je les vois sur YouTube, ces chansons. Il met un visuel qui, je pense, sera le visuel.
En noir et blanc, là ?
Ouais, vachement sympa.
Il y a le même sur iTunes.
Ouais, et qui est, la pochette est vraiment cool, très graphique, enfin, vraiment bien. Voilà. Et en plus, encore une fois, c'est mon cousin.
Alors écoutez, bordel, c'est
allez,
pas possible.
Allez, écoutez ça.
On poursuit, mon cher Gauthier, avec une autre petite nouvelle dont je me demande d'ailleurs si vous n'êtes pas également apparenté, tellement tu l'aimes. C'est notre ami Taylor Swift.
Je n'aime pas Taylor Swift.
Si.
Non, j'aime pas Taylor Swift.
Gauthier, il faut l'avouer un moment. Elle revient avec son 11e album, déjà. Album intitulé The Tortured Poets Department. Ça me fait penser, c'est qui déjà cette Canadienne dont tu raffoles?
Johnny Mitchell.
Johnny Mitchell.
Non, mais tu vas pas me comparer Johnny Mitchell à Taylor Swift. Hein, sinon, voilà. Là, franchement, on va pas être pote. Hein. Non, il faut en parler, Théo, et je te remarqueras que je te mets pas d'extrait de son album parce que j'ai pas été capable.
Et je t'en remercie.
Voilà, d'un extrait.
Chaleureusement.
D'un extrait 1. Mais de fait, elle bat tous les records. Elle a re-explosé le record du nombre d'écoutes sur Spotify de son dernier album. Ça se compte en plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'écoutes en une semaine. C'est hallucinant. Elle est pour beaucoup la Beatles moderne dans le côté Beatles mania, ben Swift, Swifty mania. Donc il faut bien en parler. Et de toute façon, Théo,
t'imagines ce pauvre Polo,
ouais,
s'il nous écoute,
et doit se dire
ce
que
pauvre McCartney là.
La comparaison fait mal peut-être,
ah ouais,
mais,
ouais,
mais bon, surtout que je crois qu'elle elle vend plus que lui, quoi. Donc maintenant, donc c'est d'autant plus douloureux.
Assurément.
Ouais, bon, écoute, c'est comme ça. Mmh. De toute façon, mon cher Théo, ce mois-ci, on avait le choix soit entre chroniquer Taylor Swift, soit Beyoncé, puisqu'elles ont toutes les deux sorti un album. Alors j'ai écouté Beyoncé, c'était presque encore plus compliqué à écouter que le dernier Taylor Swift, donc j'ai choisi entre La Peste et le Choléra et j'ai pris le Choléra,
ouais,
à savoir le dernier Taylor Swift, sachant que Théo, tu l'as pas écouté, donc tu n'as aucune raison de te plaindre.
Exactement.
Moi, je l'ai écouté, l'album dure une heure et la version complète de l'album, puisque Taylor, elle sait comment faire un petit billet, donc elle sort deux versions de son album, la version complète de l'album dure plus de deux heures.
Qu'est-ce que c'est la différence entre l'album et la version complète?
Il y a d'autres chansons, tu sais. Y a
la version agrémentée.
Ouais, j'ai pas bien... Enfin, moi, elle aurait pu en faire un single éventuellement. Ça voilà, m'aurait suffi. Bon... Qu'est-ce que c'est cet album de Taylor Swift? C'est Taylor Swift qui manifestement découle les années 80 et la Cold Wave, beaucoup plus peut-être de rythmique par rapport à ses précédents albums, et notamment je pense à Folklore que j'avais bien aimé, qu'on avait chroniqué. Voilà, on a toujours le cas de The National derrière, avec une musique qui est manifestement calibrée pour sa prochaine tournée. C'est à fond dans la musique de stade, t'as des grandes orchestrations, pleine profondeur, c'est bien grandiloquent. Tu sens que quand tu seras dans le stade avec 80 000 personnes à l'avoir chanté ça, bah, tu passeras un bon moment. Après... tout dépend de priorité que tu fixes. Si ta priorité, c'est d'écouter de la musique pour écouter des mélodies, pour écouter des petites guitares, des choses comme ça, bah ouais, tu vas pas écouter Taylor Swift, ça c'est certain. Si par contre, tu veux écouter de la musique pour avoir de l'émotion, pour écouter une fille qui te parle de ses ex, de ses peines, de voilà, et ben ouais, Taylor Swift est fait pour toi. Et manifestement, mon cher Théo, elle est fait pour des millions et des millions et des millions et des millions de personnes sur Terre. Donc voilà. Ouais. Toi et moi, et peut-être pour certains de nos auditeurs, c'est pas notre cam, mais
si tu veux écouter des personnes qui parlent de leurs ex et de leurs peines, moi je recommande l'écoute de Bon Iver, le premier album de Bon Iver.
Mais tu, enfin ouais, la comparaison. Et chez Taylor Swift, il y a une espèce de côté un peu Disney. On pourrait en parler pendant des heures, mais il y a une espèce de côté où en fait, si tu veux, le chant et le texte portent plus que la mélodie. T'as l'impression qu'en fait, elle fait de la musique parce qu'il lui faut un média d'expression, mais qu'elle pourrait faire un livre tout pareil ou un film tout pareil. En fait, elle est là pour raconter des trucs. Et t'as l'impression que la musique est presque accessoire. Et je m'étais fait cette comparaison, si tu veux, elle est un peu à la musique, qu'Harry Potter et peut-être à la littérature. Moi, je lui jette pas du tout la pierre parce que Harry Potter fait beaucoup de bien la littérature, ça pousse plein de gens à lire, donc tant mieux.
Oui, bien sûr.
Mais oui, on peut pas comparer Harry Potter à Maupassant, enfin Rowling à Maupassant, comme on peut pas comparer, à mon sens, Taylor Swift aux Beatles. Ils font quasiment pas le même métier, quoi. Voilà. Taylor Swift est bien plus proche d'une composition pour Pocahontas, quoi. Ça m'empêche pas que les chansons Disney sont trop bien. Non mais voilà. Mais en tout cas, pour mes goûts personnels, je recommande plus l'écoute de Folklore, moi, qui m'avait nettement plus plu, plus simple, plus acoustique, presque plus touchant finalement que celui-là, qui est vraiment, t'as l'impression que c'est Muse, quoi, tu sais, c'est vraiment la musique
ou
de stade,
Coldplay.
Ou Coldplay,
ouais,
complet.
Je pensais à ça en fait.
Et sinon, oui, si vous voulez écouter des trucs d'ex, écoutez Bon Iver, Elliott Smith, enfin plein de trucs beaux, quoi.
Voilà,
voilà. Fin de la parenthèse Taylor Swift.
Il y a matière.
Tu veux que je te parle de Beyoncé ou pas?
Non.
Non, ok.
Écoute, on va faire l'impasse.
Parce que j'en ai à dire, hein, si tu veux, sur son album.
Je crois qu'on va faire l'impasse. On a déjà chroniqué le précédent là, sur lequel elle chevauchait une espèce de licorne.
Ouais, où elle faisait de la techno, maintenant elle fait de la country. Elle chevauche toujours un truc, c'est un cheval à nouveau, avec un drapeau américain. Et c'est toujours aussi mauvais. Dans un autre style musical. Ce qui est quand même fort de faire deux mauvais albums dans deux styles musicaux différents.
Oui,
ouais. Ça
force le respect.
Théo.
Il est maintenant l'heure de vous parler de ce groupe qu'on a aimé, voire adoré, Gauthier. Puisqu'on a adoré détester dès le troisième album d'ailleurs, un groupe qui a explosé et dont les membres ont eu des carrières solo au destin divers mais sans jamais crever le plafond de verre posé dès le premier album, hélas. Ce groupe, c'est bien entendu les Libertines, qui revient avec un quatrième album solo intitulé All Quiet on the Eastern Parade. On y retrouve un petit peu l'énergie des deux premiers albums, mais avec une sorte d'apaisement qui n'est pas forcément pour déplaire. Que voulez-vous ? On vieillit tous, même les idoles. Et vu les déboires dans lesquels ils s'étaient plongés, on peut estimer que c'est un bon album de retour, loin de la bouse qui était Anthem for Doom Deuce. On s'écoute Baron's Claw.
I saw the Baron's Claw, gold and silver, bits of iron ore, heads peering round the screen door. We all said, cool. They just installed the first phone, a deep ancestral home, and silhouetted by the fire I saw. Children cried with joy as they ran alongside. The big black car sped by, steered by the Baron's Claw. Next time I saw the Baron's Claw dripping through the grocer's door, he saved the family from the fire's roar. Baron's Claw. The skin melted on the street.
Reste trois.
Baron's weight on his feet.
Les Libertines, mon cher Théo. Et t'étais content de les réentendre, toi qui les avais perdus de vue depuis des années.
J'aurais bien aimé les écouter un peu plus longtemps. Non,
mais on a une émission, pas mal d'albums à passer, mon cher Théo. Bon. Sinon, je te reparle de mon cousin, si tu veux. Allez, avance.
Bah non, c'est toi qui vas avancer. Tu vas me dire ce que t'as pensé de cet album.
Eh ben écoute, vraiment pas de choses très négatives. Déjà, ils évitent l'écueil du ridicule, comme certains ils sont...
Bah déjà comme sur le précédent.
Ou comme ce bon Mick Jagger a pu faire avec le dernier album des Stones. Non, mais c'est toujours très difficile, effectivement, comme tu le disais en introduction, quand t'as fait des masterpieces d'ores et déjà, ouais. Et que tu reviens avec pas mal d'années en plus pour faire un style musical qui est peut-être pas le plus évident quand t'as 50 berges, ou 40 berges, ou 70 berges comme Mick Jagger. Donc il s'évite clairement le ridicule, c'est un album qui est loin d'être dégueulasse, vraiment, mieux que le troisième, je suis d'accord avec toi, mais bien évidemment moins bien que le 1 et le 2. On retrouve un peu les obsessions de ce cher... j'allais dire Delmon Albarn, mais pas du tout, Karl Barat, pour cette espèce de punk rythmique un peu à la Clash. Ouais.
Là, avec et les chansons toutes mignonnes
de Pete Doherty. Donc ils sont chacun un peu tous les deux dans leurs obsessions. Tu l'as dit aussi Théo très justement, bien évidemment l'énergie folle et délirante des deux premiers albums n'existe plus, parce que déjà peut-être qu'ils se sont calmés sur leur consommation personnelle de stupéfiants, ce qui est très bien parce que sinon ils seraient décédés depuis longtemps. Voilà. Et aussi parce qu'effectivement ils ont vieilli et que en plus Pete a pris quelques kilos.
Et quelques enfants.
Et quelques enfants.
Écoute, j'ai un pote qui est allé le voir en concert, Pete a fini sur scène avec son gamin qui se prenait 200 décibels dans les dents
bah oui,
à 6 mois, c'est pas idiot.
Non, c'est pas idiot. Ce qui est très marrant, c'est qu'en plus, il trust, enfin, ou tout du moins, il flirte plus que truster régulièrement avec un peu, justement, c'est pour ça que je le mentionnais, mais avec du Delmon Albarn, avec du Blur, notamment sur Mustangs que Blur aurait pu composer dans sa version Leader Price, ou d'autres chansons un peu mieux, je pense par exemple avec Man with Melody, qui est une très jolie chanson, qui aurait pu vraiment figurer sur un album de Blur sans aucun problème. D'ailleurs, il chante vraiment comme Albarn. Delmon Albarn, le chanteur de Blur, sur cette chanson. Donc c'est un album qui est loin d'être ridicule. C'est clairement pas leur meilleur, hein, bien évidemment, qu'on fait les deux premiers.
On est loin de Up the Bracket.
Oui, mais c'est pas la même énergie, c'est quasiment même plus le même style musical.
Et voilà.
Voilà. Mais il s'évite vraiment l'écueil du ridicule, c'est vraiment pas mauvais.
Ça me fait penser aux Arctic Monkeys, tu sais qu'il avait pris un petit virage un petit peu jazzy.
Oui, mais justement, l'Arctic Monkeys, le brillant, moi j'ai un respect absolu d'Alex Turner, c'est qu'il change de style. Les Libertines, ils continuent vraiment à faire rigoureusement ce qu'ils ont toujours fait, c'est juste qu'ils se sont un tout petit peu calmés. Les Arctic Monkeys, comme tu dis, ils sont maintenant
un petit côté blues.
Ils sont passés par le stoner, ils sont maintenant sur quelque chose quasi jazzy, effectivement, enfin, ou tout du moins, oui, plus crooner.
Exactement.
Les Arctic Monkeys, ils se réinventent. Les Libertines, ils se réinventent pas, incontestablement. On retrouve encore une fois toutes leurs obsessions, mais sur un album qui, encore une fois, loin d'être
idiot.
Loin d'être déconnant. Vraiment loin d'être déconnant. C'est bien.
On enchaîne, Gauthier, avec un autre revenant, mais alors ça, c'est pour le coup plutôt un routier de la musique.
Ah, il vient des fonds d'usage, lui.
Bah, puisqu'il célébrera l'année prochaine, attention, ses 60 ans de carrière musicale.
Ah oui, il est plus proche du Mick Jagger que de Libertine. Voilà.
Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est de Mark Knopfler, le leader de Dire Straits, dont on va vous parler, puisqu'il revient avec un 10e album solo, un album intitulé One Deep River. On s'écoute Ahead of the Game.
Time or twice. You had you a regular spot. They were even advertising your name. Better than the usual thing you got. Staying just ahead of the game. Ahead of the game.
Alors Gauthier, est-ce qu'on est toujours séduit par le jeu de guitare de Mark Knopfler ?
Oh oui.
Oh
non,
oui.
Alors pourtant il a changé de style très clairement, il est beaucoup plus dans un truc américain comme vous êtes en train de l'entendre. L'album, tu le mets, tu l'écoutes, t'as l'impression d'avoir du DJ Cowell. Hein. C'est, ouais, c'est vraiment complètement américain, malgré la pochette qui est une vue de Newcastle.
Je l'ai pas vu.
Bah, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi, parce que je suis allé vérifier, Mark Knopfler n'est pas de Newcastle. Mais enfin, passons.
Non, il est écossais, je crois.
Ouais.
Glasgow.
Ouais,
ou un
truc dans le genre, ouais. Donc je vois pas la référence. Je l'ai mentionné parce que c'est un album qui est très bien fait, très bien ficelé. Il y a rien de très original. Si vous aimez le blues américain, on connaît l'amour des guitares héros anglais que sont Clapton, Knopfler, Jimmy Page avec les Yardbirds, etc. pour le blues américain. Et ben Mark Knopfler ne fait. Et on pourrait même citer d'ailleurs au demeurant. J'ai même plus son nom. Keith Richards, bien évidemment.
Ah oui.
Donc il est dans. Je pense qu'il se fait ses petits kiffs de pépère en fin de carrière. Il adore le blues américain. Il fait du blues américain, tout simplement. C'est un super album, très simple. Ça casse pas quatre pattes à un canard, mais tu peux te le mettre en fond. Tu voyages.
Ouais, c'est pas déconnant.
Non.
Alors là, Gauthier, je vais naviguer à vue parce que tu vas maintenant nous parler de. Alors vous. Si vous nous écoutez, cher groupe, je vous prie de pardonner la prononciation parce que je ne sais absolument pas comment prononcer ça. Uto, Uto,
Uto. Enfin, c'est un U, N, T et un O.
Voilà,
quoi. Après,
Uto, un duo franco-français que je découvre avec toi. Qu'est-ce que c'est, Uto?
Alors, je te mets un extrait et je t'explique derrière.
Ouais, vas-y.
Allez, on y va. Théo, je t'ai dit que tu m'as demandé de te parler du Théo, je vais essayer de le faire, même si c'est très difficile, parce que ce sont des Français, Émilie Laroche et Naysa May Barnett. Alors, Naysa May Barnett, je suppose qu'il est peut-être d'origine anglo-saxonne, mais ouais. C'est très difficile pour moi d'en parler, parce qu'en fait, il y a très peu d'informations sur eux. Moi, je les ai découverts grâce à Cobuzz.
C'est un groupe naissant.
Non, c'est leur deuxième album.
Ok.
Voilà. Mais il y a très peu d'infos sur eux.
Oh, le premier n'était pas un franc succès, manifestement.
Il avait été mentionné dans la scène indé, puisque notamment Pitchfork, donc qu'on signe régulièrement, qui est un magazine pourtant américain, a chroniqué leur premier album.
Ah ouais. Mais c'est vachement bien.
Avec pas la note du siècle, puisqu'il avait pris 7,8, je crois, 7,8.
Bon, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Mais c'est très difficile de trouver des informations sur eux. D'ailleurs, UTO, si vous nous écoutez,
envoyez-nous des infos.
Envoyez-nous des infos. C'est un album dans lequel je suis rentré, parce que voilà, ça m'était conseillé par Cobus, donc je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, j'ai été séduit. Alors, ça casse pas neuf pattes à un canard, dans le sens où c'est pas le truc le plus original du monde. Là, vous écoutez la chanson Napkin, qui ressemble clairement à du Massive Attack. C'est vraiment de la trip-hop. Moi, ça a fait booty shaker mon fils de 19 mois. C'était vraiment très chouette. Le tout chanté avec une voix un peu à la Björk. Il n'y a jamais de grande originalité, mais c'est le petit grain de folie électro très français. Allez écouter par exemple la chanson Two Moons avec sa lente montée qui est très efficace. C'est pas des gens qui sont pour l'instant, à mon sens, en train de révolutionner l'histoire de la musique, mais par contre qui sont capables de faire des chansons très efficaces dans cet électropop vraiment jubilatoire. Moi j'étais vraiment un peu séduit.
Séduit.
Ouais, juste à titre indicatif, l'album s'appelle When All You Want to Do, I Be the Fine Part of Fire. Merci beaucoup de faire des titres aussi longs.
C'est clair.
L'approche UTO, c'est mieux. S'il vous plaît, UTO, si vous nous écoutez. Ou Fiona Apple qui avait fait un titre qui rentrait même pas quasiment sur la cover de l'album. UTO, le prochain album, peut-être qu'on l'appelle UTO tout simplement.
Voilà.
Pour me simplifier ce travail. Non, mais vraiment intéressant comme groupe. Allez écouter l'album, vous verrez, on rentre très facilement dedans. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant des heures. Et c'est tout ce que la France sait faire avec l'électro et l'électropop. C'est assez marrant.
Et Dieu sait qu'on est doué. On est doué pour ça.
Ah oui, on n'est pas mauvais.
On approche de la fin de cette prescription, Gauthier, mais on ne saurait passer sous silence la sortie du 5e album de Vampire Weekend, ce sympathique groupe new-yorkais découvert au milieu des années 2000 avec leur explosif album Vampire Weekend. Ils reviennent avec Only God Was Above Us. Je vous propose qu'on s'écoute Capricorne.
Can't turn the tide. The world looked different when God was on your side. Who builds the future? Do they care why? I know you're tired of trying. Listen clearly, you don't have to try.
Alors, hors micro, je disais à Gauthier, c'est mignon, Vampire Weekend. Et pour ma part, je trouve que la magie opère toujours. Et il m'a dit, je vais en parler. Vas-y, parle-moi.
Alors, je suis d'accord avec toi que Vampire Weekend, c'est une signature sonore très particulière. Ça fonctionne toujours très bien. Ils sont capables de composer des mélodies qui ne ressemblent qu'à eux, avec cette espèce de mélange de world music, de rythme endiablé,
ouais,
de mélodies vocales.
Même si là, c'est très soft.
Celle-là est soft, mais pas le reste de l'album. Avec des mélodies vocales qui montent, cette voix très particulière. C'est virevoltant, c'est inimitable. C'est Vampire Weekend, et cet album est de très bonne facture, incontestablement. Et c'est peut-être le meilleur album de cette prescription, puisque mon cousin ne l'a pas encore sorti le sien, sinon ça aurait été mon cousin, bien évidemment. Mais, parce qu'il faut que je donne un petit mais, j'ai un tout petit problème avec le formalisme de cet album, qui est à mon sens un tout petit peu agaçant, je m'explique. Vampire Weekend fait sur cet album ce que Vampire Weekend sait faire. Là où vous l'entendez en fond, c'est du Vampire Weekend, c'est signé, c'est bon, c'est nickel.
Assurément.
Voilà. Mais sur la majeure partie de l'album, pour une raison qui m'échappe complètement, j'ai l'impression qu'ils essaient d'aller chercher un brin de folie, une originalité formelle, pas dans la composition, c'est vraiment dans la prod, là tu l'entends Théo en fond, la guitare très agressive, enfin ou tout du moins ce son très agressif, et c'est systématique sur l'album. Je prends un exemple, Classical, cette chanson vous irez l'écouter, c'est du Contrat version 2024, Contrat qui était l'un de leur album et l'un
c'était
de leur
deuxième album,
ouais,
je crois,
et l'un de leurs meilleurs singles. Et subitement au sein de Classical, tu as un saxophone complètement cinglé qui arrive, type Funhouse des Stooges quoi.
Ah ouais.
Et qui va presque t'agresser parce qu'il est très fort. Écoute en fond, voilà, ces espèces de saturations.
Mais surtout jouer faux, non?
Et il y a une volonté de leur part, je sais pas pourquoi, d'aller, on va dire,
te titiller un peu les oreilles.
Exactement. Ouais. D'aller te chercher, si tu veux. Ils sont toujours capables de faire les mêmes mélodies, mais ils veulent, dans la forme, être plus provocateurs. Il y a de la statue, il y a de la provocation. Voilà, c'est étonnant. Et alors, il y a un point qui est fondamental pour le comprendre en plus, c'est que c'est un album qui est long pour du Vampire Weekend. Les premiers albums de Vampire Weekend, tu t'en souviens, Théo, c'était des trucs qui étaient exécutés en 30 minutes. C'était péchu, justement, ça bombardait.
D'une efficacité redoutable.
Ouais, et là, cet album fait 10 minutes de plus que leurs précédents albums. 10 minutes ça paraît rien, ouais, mais ça fait plus d'une minute par chanson, parce que c'est toujours des albums de 10 chansons à peu près,
ouais,
grosso modo.
Ouais,
et ben quand, si tu veux, tu
une
rajoutes
chanson
des...
qui durait 3 minutes, dure
ben,
4.
En dure 4. Et quand ils rajoutent ben, dans ces 4 minutes ben, que du formalisme un peu agressif, du Larsen, du saxo très violent et tout, et ben ça rend parfois l'écoute un peu désagréable. Ça reste quand même un excellent album, hein. Voilà, moi c'est pas mon préféré de Vampire Weekend, mais ça reste un très bon album.
On termine, enfin, et c'est d'après toi le meilleur de la prescription.
Oui.
On termine l'émission, Gauthier, avec une de ces petites pépites dont tu as le secret.
Et c'est pour toi qu'elle est passée en dernier, celle-là.
Ah, au coup, c'est
pour que tu aies la chanson en entier.
Tu es mon petit bonbon, toi. Une de ces pépites dont tu as le secret quand te vient l'idée de voir ce que la World Music a fait dernièrement. Cette pépite a été pondue par Bruno Berle. Tu nous en parles ?
Ouais, je vais surtout rendre à César ce qui est à César. C'est Cobuz à nouveau qui me l'a recommandé.
Décidément.
Ouais, bon, parce que je suis pas un spécialiste de musique brésilienne, mais ils nous avaient recommandé l'année dernière. Ah, j'ai plus le nom, cet artiste brésilien extraordinaire.
Je le revois tellement. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé aussi.
Extraordinaire, dont j'ai plus le nom. Ça me reviendra peut-être avant la fin de l'émission. Non. C'est à nouveau un brésilien, pour Bruno Berle, donc avec No Reino dos Afetos 2. Puisqu'il y avait son premier album qui s'appelait No Reino de Afetos 1, okay. Tout simplement. C'est Tim Bernardes, le Ghanaien, l'extraordinaire
trop
brésilien.
Trop fort, bravo.
Ouais, voilà. Merci, mon téléphone. c'est un album qui est vraiment sympa. Je suis un peu emmerdé parce que je ne peux pas dire qu'il m'est satisfait dans son ensemble. Il y a notamment, par exemple, un truc, Acorda et Vem, dont l'autotunes rendrait jaloux de Jules. C'est insupportable, cette chanson. Mais c'est un mec qui est capable de pondre des mélodies absolument remarquables. Et Théo, si je l'ai placé en flingue prescription, c'est parce que je voulais te proposer à toi, qui aime les petites mélodies un peu chaloupées et chaleureuses, ouais, la chanson Te Amar et Telno, qui ouvre cet album de Bruno Berle et qui est une pépite absolue, elle est magnifique et malheureusement bien meilleure que le reste de l'album, qui en demeure pas moins intéressant mais un peu plus inégal.
Et malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse l'écouter en entier. Les amis, vous l'avez deviné, il est déjà heure de se quitter. On va le faire en s'écoutant Te Amar Eterno, dont on vous parlait il y a quelques instants. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour fêter les 40 ans d'Ocean Rain, Deacon, The Bunnymen. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut.
À lundi.
Salut Théo.
Para além de eu respirar, se não está perto, meu desejo te encontrar, te amar eterno.